Chapitre 14. Des changements. Selon certaines sœurs, il restait au moins autant à apprendre après avoir eu le châle qu'avant. Eh bien, c'était la stricte vérité, comme le découvrirent très vite Moiraine et Siouan. En tant qu'acceptées, elles avaient dû assimiler les coutumes de la Tour Blanche, en particulier les plus anciennes, qui avaient force de loi et qu'on ne pouvait pas violer sans encourir un châtiment sévère. Désormais, Raphaëlla et d'autres sœurs passaient des heures à leur détailler la très longue liste de coutumes de l'âge bleu, le fruit de 3000 ans d'existence et d'évolution. Siouan avait retenu à peu près tout ce que Raphaëlla leur avait dit lors de leur longue marche jusqu'au quartier de l'âge bleu. Dotée d'une moins bonne mémoire, Moiraine dut travailler dur pour rester au niveau de son amie. Mais n'aurait-il pas été stupide de récolter une punition pour une transgression telle que porter du rouge à l'intérieur de la tour? Les pierres précieuses rouges étaient autorisées, des éclats de grenat ou de rubis, mais pas les vêtements de cette teinte. Un héritage de la très ancienne animosité qui existait entre les âges bleus et rouges. Pour quelle raison? Nul ne s'en souvenait. Parfois, les affrontements dans le hall de la tour prenaient des allures de bataille rangée. L'idée que des âges puissent s'affronter stupéfia Moiraine. Mais le cas n'était pas unique. Alors que les sœurs vertes et les sœurs bleues vivaient en harmonie depuis des siècles, il n'en allait pas de même avec les autres âges. Pour l'heure, les rapports étaient légèrement tendus avec les sœurs blanches, pour des motifs qu'elles étaient seules à connaître. La tension montait d'un cran quand on en venait aux sœurs jaunes. Tout ça à cause d'un malentendu lors d'une intervention en Altara, près d'un siècle plus tôt. Une coutume très ancrée interdisait qu'on se mêle des affaires d'un autre aja, et elle primait même la hiérarchie de respect généralement acceptée, à l'extérieur de la tour en tout cas. Il y avait aussi les fluctuations d'alliances. Les sœurs marrons, par exemple, soutenaient les sœurs blanches dans leur conflit contre les bleus. En revanche, elles se rangeaient du côté des bleus quand il s'agissait de combattre les jaunes. Pour l'instant, les choses en étaient là, mais ça pouvait changer très vite, ou rester en l'état pendant des siècles. Quand les informations existaient, il convenait d'être au courant des rivalités opposant les autres ajas, afin d'éviter les gaffes, bien entendu, et de ne pas se retrouver prise entre deux feux. Comparé à ce jeu pervers, le Daes Daemar semblait aussi inoffensif que la marelle ou le ballon prisonnier. Comme à l'époque où elles étaient novices puis acceptées, Siouan donna des cours magistraux toutes les nuits à son amie. Même si elle n'était pas toujours convaincue de l'utilité de tout ça, Moiraine écouta religieusement ses camarades, car celle-ci ne commettait jamais d'erreur. Les deux nouvelles Aes Sedai recommencèrent aussi à étudier le pouvoir de l'unique avec Lelaine, Natasia, Anaya et d'autres sœurs qui se relayèrent. Elles apprirent à tisser le lien du champion, découvrirent d'autres tissages inaccessibles aux acceptés et furent initiées à certains secrets connus uniquement des sœurs bleues. Moiraine fut fascinée par ce dernier point. Si les sœurs de son aja dissimulaient des tissages aux autres, la réciproque devait être vraie. Et il se pouvait que des sœurs conservent individuellement des secrets. Après tout, avant son arrivée à Tar Valon, n'avait-elle pas inventé un petit « truc » dont elle s'était bien gardée de parler aux Aes Sedai? Bien entendu, elles avaient senti l'étincelle qui grésillait déjà en elles, mais elle avait prétendu s'en servir exclusivement pour allumer des bougies ou invoquer de petits globes lumineux qui l'aidaient à se repérer dans le noir. Quand on vivait au Palais du Soleil, apprendre à garder des secrets était indispensable. Siouan avait-elle aussi les siens, en matière de pouvoir? Une question qu'il était impossible de poser à sa meilleure amie. Même si elles en savaient assez long sur le Saïdar pour assimiler vite, la matière était tout simplement trop riche pour que les choses aillent vite. En tout cas, pour les aptitudes de Moiraine. Pourtant, selon Natasia, se couper de la chaleur et du froid, par exemple, était une astuce assez simple, reposant sur la concentration.
L'esprit doit être aussi paisible qu'une étendue d'eau, quand il n'y a pas un souffle de vent,
dit-elle, du ton pédant qu'elle adoptait dans les salles de classe. La leçon avait lieu dans sa suite, où presque toutes les surfaces planes étaient couvertes de figurines, de statuettes et de petits personnages peints. Ces cours-là avaient toujours lieu dans le fief de la formatrice.
Il faut se concentrer sur un point, juste derrière son nombril, au centre même du corps, puis commencer à respirer à un rythme régulier, mais pas celui qui vous est habituel. Toutes les inspirations doivent avoir exactement la même durée, idem pour les expirations. Et entre les deux, on ne respire pas durant un intervalle équivalent. Avec de l'entraînement, cette technique devient une seconde nature. Quand on respire ainsi, avec ce type de concentration, l'esprit se détache du monde physique et on perd toute conscience des conditions extérieures. Au point de marcher nu au milieu d'une tempête de neige ou sous un soleil de plomb, sans grelotter ni transpirer.
Natasia saisit sa tasse d'infusion, but une gorgée,
puis un petit rire de gorge. Après un certain temps, l'exposition au froid ou à la canicule finit par avoir des inconvénients. L'esprit est coupé de tout, certes, mais pas le corps. Une technique simple, donc. Pourtant, après une semaine d'entraînement, la concentration de Moiraine continuait à lui échapper, au moment les plus incongrus, lui arrachant un cri de douleur quand le froid, par exemple, la faisait souffrir trois fois plus qu'avant sa tentative avortée de méditation. En public, comme dans la salle à manger ou en remontant un couloir, ses réactions lui attiraient immanquablement les regards courroucés d'autres sœurs. Moiraine redouta d'être en train de se forger la réputation d'une tête en l'air et d'une petite dinde qui rougissait pour un oui ou pour un non. Comme de juste, Siouan maîtrisa instantanément la méthode. Et son amie ne la vit plus jamais frissonner ni transpirer. La fête des illuminations arriva, marquant la fin de l'année. Deux jours durant, toutes les fenêtres de Tarvalon restèrent illuminées du crépuscule à l'aube. Dans la tour, les domestiques rouvrirent des pièces qu'on n'utilisait plus depuis des siècles, afin d'allumer des lampes qui brûleraient sans interruption pendant 48 heures. Avec leur défilé de citadins portant des flambeaux dans les rues en pleine nuit et leur joyeux banquet qui durait souvent jusqu'au lever du soleil, même dans les plus miséreuses demeures, ces festivités incitaient au bonheur. Pourtant, elles inspirèrent une profonde mélancolie à Moiraine. Des pièces inutilisées depuis des siècles. La tour déclinait et il n'y avait rien à faire. Si des femmes qui portaient le châle depuis 200 ans n'avaient trouvé aucune solution, que pouvaient-elles espérer changer à cette sinistre réalité? Pendant les célébrations, beaucoup de sœurs recevaient des invitations à des bals, de jolis cartons élégamment enluminés. Et elles étaient nombreuses à accepter, car les Aes Sedai, comme n'importe quelle autre femme, pouvaient aimer la danse. Moiraine reçut son lot d'invitations, émises par des nobles d'une bonne vingtaine de maisons du Kaerien et par autant de marchands assez fortunés pour pouvoir frayer avec la noblesse. Comment pouvait-il y avoir tant de ses compatriotes à Tarvalon, surtout si influents? Une réponse s'imposait. C'était à cause des plans funestes du hall de la tour. Moiraine jeta les cartons dans la cheminée sans prendre la peine de répondre. Une tactique dangereuse au grand jeu, qui pouvait donner des résultats très inattendus. Mais elle ne jouait pas au Dice Daimar. Non, elle se cachait, tout simplement. Contre toute attente, les premières robes arrivèrent très tôt au matin du premier jour de fête. Tamoré avait-elle un besoin urgent de son bonus? Ou avait-elle pensé que ses clientes inaugureraient leur nouvelle tenue pour les festivités? Quoi qu'il en soit, elle vint accompagnée de deux petites mains, au cas où il y aurait eu besoin d'ultimes retouches. Ce ne fut pas le cas, bien entendu, car la couturière était une authentique experte dans sa profession. Moiraine constata cependant que ses craintes étaient fondées. Sur ses six robes, la plus sombre était à peine plus foncée que le bleu ciel. Deux seulement étaient brodées. Du coup, presque toutes celles qui restaient à livrer le seraient. Pour l'instant, elle devrait continuer à porter les robes de laine fournies par son aja. Mais les tenues d'équitation, elles, seraient sombres. Car Tamoré elle-même n'aurait pas pu prétendre qu'il était saillant et pratique de voyager dans des vêtements clairs. Les robes de Siouan, une seule ayant le bas fendu, resplendissaient d'élégance, comme tout ce que créait Tamoré. Bien qu'elles fussent en laine, on aurait pu les porter dans un palais. Cela dit, elles mettaient fortement en valeur les hanches et la poitrine de la jeune femme, qui fit mine de ne pas s'en apercevoir. Ou qui ne s'en aperçut pas pour de bon, car en réalité, la mode lui passait bien au-dessus de la tête. De plus, elle avait d'autres soucis. Chaque soir, elle revenait des appartements de Sétalia avec un visage un peu plus long que la veille, et son humeur se détériorait régulièrement. Elle resta pourtant muette sur ses tourments, et piqua même une colère quand Moiraine la questionna avec un peu trop d'insistance. Une réaction inquiétante. En 6 ans, les doigts d'une main étaient trop pour compter les occasions où Siouan s'était emporté contre son amie. Le jour où Tamoré livra les robes, Siouan alla rejoindre Moiraine dans son salon pour boire une tasse d'infusion avant le repas du soir. Mais au lieu de se servir, elle se laissa tomber dans un fauteuil, croisa les bras et lâcha enfin la bonde à sa colère.
« Cette fichée murène terrestre aura ma peau »
exposa-t-elle. En moins d'une semaine, tous les efforts des sœurs pour lisser le langage de Siouan étaient retombés dans l'oubli.
« Par les entrailles d'un requin ! Elle veut me faire sauter hors de l'eau comme un poisson chat rouge ! Je n'ai jamais fait l'andouille comme ça quand j'étais... »
Siouan poussa un cri étranglé quand le premier serment lui ferma littéralement le clapet. Blanche comme un linge, elle eut une quinte de toux et se tapa du poing sur la poitrine. Moiraine eut servi une tasse d'infusion, mais il fallut plusieurs minutes avant qu'elle puisse boire. Ses paroles avaient dépassé sa pensée et elle le payait cher.
« Eh bien, pas quand j'étais acceptée, en tout cas !»
marmonna-t-elle, quand elle put de nouveau s'exprimer.
Dès que j'arrive, elle commence.
Va me chercher ça, Siouan. Fais ceci, Siouan. Tu n'as pas encore fini, Siouan?
Elle claque des doigts, et je dois danser selon sa fantaisie.
C'est ainsi que vont les choses,
dis-moi Rain, très pertinemment. La situation aurait pu être bien pire, mais Siouan avait changé d'avis sur la question, semblait-il, et ce n'était pas le moment d'entamer une polémique.
Facile à dire pour toi, grommela Siouan. Tu n'as pas cette maudite femme sur le dos.
C'était parfaitement exact, mais ça ne signifiait pas que Moiraine avait la vie belle. Les nouveaux cours lui laissaient très peu de temps libre, mais elle avait espéré que la distribution de la prime lui permettrait de mener des recherches dans les camps qui n'étaient pas encore démantelés. Au lieu de ça, tous les matins, elle s'asseyait pendant 2 ou 3 heures dans une pièce sans fenêtre, au 8e étage de la tour. Un minuscule bureau, juste assez grand pour contenir une table de travail et 2 chaises très inconfortables. 4 lampes à réflecteur fournissaient l'indispensable lumière. Sans elle, Moiraine n'y aurait même pas vu à 10 pouces devant elle. En temps normal, un ou une fonctionnaire occupait les lieux. Mais ce mystérieux employé n'avait laissé aucune empreinte personnelle dans le bureau. Seul un encrier, un présentoir à plumes, un petit pot de sable et une fiole blanche d'alcool, pour nettoyer les plumes, reposaient sur la table. Et les murs de pierre grise étaient nus. La salle précédente, beaucoup plus grande, était pleine de bureaux de scribes, de clercs et de secrétaires. Dès l'arrivée de Moiraine, tous ces braves gens se mettaient en rang devant sa table de travail, la file réussissait à faire 1 ou 2 boucles dans la grande salle, et lui apportait les uns après les autres des listes de femmes qui avaient reçu la prime ou des rapports sur les dispositions prises pour faire parvenir l'argent à celles qui étaient déjà parties. Le nombre de ces rapports était déprimant. Peu de camps étaient encore en place, et ils fondaient tous comme neige au soleil. N'utilisant jamais la seconde chaise, tous les fonctionnaires attendaient respectueusement que Moiraine ait lu les documents et a posé sa signature sur la dernière feuille. Puis il s'inclinait, s'écartait et laissait la place à un nouvel employé, qui ne prononcerait pas un mot non plus. En un temps record, la jeune femme commença à se dire qu'il était bel et bien possible de mourir d'ennui. Elle tenta d'accélérer la distribution de l'argent. La Tour Blanche disposait des ressources humaines nécessaires pour que ce soit bouclé en 1 semaine. Mais, s'ils étaient présents par centaines dans le complexe, les fonctionnaires travaillaient à leur propre rythme, et ils supportaient mal qu'on les bouscule. Après que Moiraine leur eut suggéré d'aller plus vite, ils semblèrent même ralentir, comme s'ils avaient mal compris le message. La jeune femme envisagea alors de supplier Tamra de la retirer de son poste. Mais pourquoi se serait-elle humiliée en vain? En attendant que les funestes desseins du hall se réalisent, quel meilleur prétexte pouvait-on trouver pour la garder à Tarvalon? Si on pouvait périr d'ennui, la frustration était-elle aussi létale? Moiraine avait toujours un plan, et ça l'aidait quand même un peu, car elle avait pris une décision, non sans hésiter. Si le pire se précisait, elle s'enfuirait, et tant pis pour le châtiment que ça lui vaudrait. Toute punition l'attendrait dans un avenir indéterminé, et les plus terribles calvaires avaient une fin. En revanche, le trône du soleil serait l'équivalent d'une peine de prison à perpétuité. Le jour suivant la fête des illuminations, Elide fut convoquée pour passer l'épreuve. Moiraine en fut informée en retard, apprenant dans le même temps que la superbe acceptée qui ambitionnait de rejoindre l'âge à vert n'était jamais sortie du terrain gréal. La nouvelle ne fut pas véritablement annoncée. La Tour Blanche ne s'étendait jamais sur ses échecs. Et la mort d'une femme pendant l'épreuve finale entrait bien entendu dans cette catégorie. Officiellement, Elide se volatilisa, et tout ce qui lui appartenait disparut comme par enchantement. Il y eut cependant une journée de deuil, durant laquelle Moiraine porta des rubans blancs dans ses cheveux, et noua autour de chacun de ses bras un carré de soie blanche bordée de dentelle dont la pointe pendait jusqu'à son poignet. Même si elle n'avait jamais aimé Elide, sa mémoire méritait d'être honorée. Toutes les sœurs assez puissantes pour faire danser les 2 nouvelles à leur guise ne profitèrent pas de ce privilège. Elaïda les évita. En fait, elles ne la revirent pas avant d'apprendre qu'elle était repartie pour le royaume d'Andorre. Même si elle les avait laissées tranquilles, son départ fut un soulagement. Ayant le niveau très élevé que les 2 amies atteindraient un jour, elle aurait pu leur empoisonner la vie au moins autant que lorsqu'elles étaient des novices puis des acceptées. Au moins, et si ce n'était bien plus. Car les corvées dont écopaient les novices et les acceptés, pour 2 Aes Sedai, auraient été très proches de cruelles punitions. Comme toujours, tout était relatif. Aussi puissante qu'Elaïda, et auréolée de son titre de représentante, Lelaine invita plusieurs fois ses jeunes collègues à prendre une infusion dans ses appartements, pour les aider à supporter la tension des premières semaines, expliqua-t-elle. Siouan se sentit tout de suite très à l'aise avec son aîné, alors que Moiraine fut assez longtemps un peu gênée sous son regard vif.
Avec les Lane, on avait l'impression d'avoir été percé à jour et de ne plus avoir de secret pour elle. Dans le même ordre d'idées, Siouan avait du mal à comprendre la sympathie que Moiraine éprouvait pour Anaya. Ce n'était pas à cause de la guérison offerte le premier jour. Chaleureuse et ouverte, Anaya vous donnait toujours le sentiment que les pires situations finiraient par s'arranger. Quasiment toutes les conversations avec elle étaient réconfortantes. Avec le temps, Moiraine pensait devenir très amie avec la bienveillante Aes Sedai. Elle ne serait jamais aussi proche d'elle que de Siouan, bien sûr, mais ce lien pourrait atteindre le même niveau d'intimité que son amitié avec Léane. Comme prévu, Siouan et Moiraine avaient repris leur relation avec Léane là où elles avaient dû la laisser, quand la jeune femme avait obtenu son châle. Adine Canford subit l'attraction de ce cercle d'amitié et y trouva vite sa place. Un peu enrobée, les cheveux bruns coupés courts et les yeux bleus, cette Andorienne ignorait jusqu'au sens du mot « arrogance », un état de fait qui la distinguait très nettement de ses compatriotes. En revanche, elle n'était pas très puissante en matière de pouvoir. Très vite, évaluer les Aes Sedai selon ce critère était devenu une seconde nature pour les deux amies. Renouant avec des sœurs d'autres Aja qui avaient un temps été en formation avec elle, Moiraine et Siouan eurent des expériences très diverses. Dans certains cas, quelques mots suffirent à raviver une ancienne amitié, comme si elle datait de la veille. Dans d'autres, il fut impossible de dépasser le stade d'une entente cordiale très retenue. En d'assez rares occasions, il s'avéra impossible de combler le gouffre qui s'était creusé à partir du moment où d'anciennes camarades avaient obtenu le châle. Le taux de réussite satisfit cependant les deux amies. L'amitié aidait à porter de nombreux fardeaux, y compris ceux dont elles n'avaient jamais soupçonné l'existence. Cela dit, amitié ou pas, les jours s'écoulaient avec une lenteur accablante. Meilyn finit par quitter la tour, suivie peu après par Keren, Aïcha, Ludis et Valera. Soulagée que la quête du garçon ait commencé, Moiraine fut néanmoins très frustrée de ne pas y prendre part. Siouan, elle, se passionna tellement pour son travail qu'elle en vint très vite à ne plus se lamenter que pour la forme. Gagnant la suite de cet alia avant l'heure imposée, elle y restait très souvent jusqu'au deuxième, voire jusqu'au troisième service du dîner. Privée de tout dérivatif, Moiraine continua à faire des cauchemars au sujet du bébé gisant dans la neige, du jeune homme sans visage et du trône du soleil. Par bonheur, ces mauvais songes s'espacèrent de plus en plus, sauf en ce qui concernait le troisième thème. Mais quand la jeune femme en était victime, ça la secouait toujours autant. Sur un autre plan, elle parvint à bannir de sa suite la majorité de la dentelle et des fanfreluches. Pour cela, il lui suffit d'une petite visite chez un fabricant de coussins, avec les objets de son courroux, et d'un peu de patience pour attendre qu'il les ait radicalement modifiés. Moiraine ne se livra pourtant pas à une radia totale. Comment l'aurait-elle pu, face à la désapprobation silencieuse mais évidente d'Anaya? Du coup, son lit continua à ressembler à un océan de dentelle, que Siouan ne pouvait pas contempler sans glousser bêtement. Passant le plus clair de son temps dans les autres pièces, Moiraine s'en accommoda assez bien. Après bien des tentatives infructueuses, elle parvint à sortir du four une tourte non calcinée. Quand elle en eut avalé une bouchée, Aeldra devint verdâtre. En revanche, Siouan réussit à cuisiner une tourte au poisson que la sœur aux cheveux gris trouva délicieuse. Hélas, une heure après, elle dut courir aux toilettes, puis demander d'urgence une guérison. Bizarrement, personne n'accusa les deux amis de sabotage volontaire. Tout aussi bizarrement, ce n'était pas le cas. Anaya et Keiren estimèrent cependant que c'était un juste châtiment pour la duplicité de certaines. Une semaine après Elide, le jour de Haute Chazaline, Sheriam passa son épreuve et la réussit. Chronologiquement, Siouan était la plus récente sœur bleue, d'un souffle, mais Cetalia refusa de se passer d'elle, même pour quelques heures. Ce fut donc Moiraine qui posa le châle de l'Aja Bleu sur les épaules de Sheriam, puis qui l'escorta jusqu'au quartier de l'Aja Bleu pour le rituel de bienvenue. S'étant libérée pour l'occasion, Siouan parvint à être la sixième à embrasser la nouvelle sœur. Très bonne cuisinière, Sheriam ne répugnait jamais à se mettre au fourneau. Au Keirienne, la haute Chazaline se nommait le jour de l'examen. Moiraine n'eut pourtant pas l'occasion de méditer sur ses fautes et ses péchés. Ayant retrouvé une amie qu'elle craignait d'avoir perdue pour une bonne année, Siouan et Moiraine la suivirent comme son ombre. La fille de pêcheur proposa qu'elle soit intégrée à leur quête, et la convaincre que ce n'était pas une bonne idée demanda des heures de négociation. Moiraine ne redoutait pas que Sheriam les dénonce auprès de Tamra, bien entendu. Mais leur amie était une des plus grandes colporteuses de ragots des quartiers des acceptés. Très loyale, elle savait ne pas révéler certains secrets, mais sans pouvoir s'empêcher de multiplier les allusions qu'elle croyait discrètes. C'était radical pour éventer n'importe quel secret, et Siouan aurait dû être la première à le savoir. Dès qu'on excitait la curiosité des gens, ils se mettaient en chasse, et rien ne leur résistait bien longtemps. Mais Siouan oubliait parfois jusqu'à l'existence du mot « prudence ». Alors, quant à se souvenir de son sens, les sœurs commencèrent à parler d'une renaissance de la Tour Blanche. Trois acceptées avaient passé l'épreuve en peu de temps, et d'autres suivraient peut-être bientôt. Par respect des coutumes, nul ne parla d'Élide, mais Moiraine y pensa très fort. Trois nouvelles sœurs, certes, mais une acceptée morte. De plus, la seule novice pressentie pour devenir une acceptée avait échoué, se faisant renvoyer dans ses pénates. Ces derniers temps, aucun nouveau nom n'avait été consigné dans le registre d'un novice. En revanche, 20 filles bien trop médiocres pour obtenir un jour le châle étaient reparties piteusement chez elles. Si on continuait comme ça, les pièces vides risquaient de le rester longtemps, leur nombre augmentant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus âme qui vive dans la tour. Siouan essaya de remonter le moral de son ami. Mais comment se réjouir alors que la Tour Blanche était destinée à devenir un mausolée? 3 jours plus tard, Moiraine regretta de ne pas avoir consacré la haute chazaline à la méditation. Même si elle n'était pas superstitieuse, on prétendait que négliger cet examen de conscience portait immanquablement malchance à une personne aimée. Au deuxième service du petit déjeuner, alors que Moiraine mangeait lentement ses flocons d'avoine en songeant aux heures d'ennui qui l'attendaient, Rima Galfray entra dans la salle à manger. Mince et élégante dans sa robe vert rayée de jaune, cette sœur de très petite taille ne faisait pas partie des Aes Sedai face auxquels Moiraine devait se soumettre. Cela dit, avec les rubis qui brillaient dans ses cheveux et son port de reine naturel, elle incarnait à merveille la tendance à l'arrogance un rien hautaine des sœurs jaunes. Contre tous les usages, elle recourut à un tissage d'air et de feu, pour que sa voix soit audible dans tous les coins de la grande salle.
« Cette nuit, Tamra Ospenia, gardienne des Sceaux, flamme de Tarvalon et chère d'Amirline, est morte dans son sommeil. Puisse la lumière briller à jamais sur son âme. »
Parlant d'un ton neutre, comme si elle annonçait qu'il pleuvrait le lendemain, Rima prit à peine le temps de balayer l'assemblée du regard, pour s'assurer que tout le monde avait bien compris, avant de se retirer en silence. Des murmures montèrent de toutes les tables. Moiraine, elle, resta sonnée un moment. Les Aes Sedai pouvaient mourir avant leur temps, comme n'importe qui d'autre. De plus, l'âge ne les affectant pas, extérieurement en tout cas, on avait souvent l'impression qu'elles disparaissaient en pleine santé. Mais là, c'était tellement inattendu. Comme un grand coup de marteau sur la tête. Oui, il fallait que la lumière brillât jamais sur l'âme de Tamra. Et il en serait sûrement ainsi, parce qu'elle le méritait. Mais qu'allait-il advenir de la quête du garçon? Eh bien, rien ne changerait. Les enquêtrices de Tamra savaient ce qu'elles avaient à faire, et elles informeraient la nouvelle chère d'Amirline. En revanche, la remplaçante de Tamra libérerait peut-être Moiraine de sa corvée, si elle allait la voir avant que le hall l'ait informée de ses douteux projets. Révoltée par sa propre bassesse, Moiraine repoussa son bol, l'appétit définitivement coupé. Une femme qu'elle admirait de toute son âme venait de mourir, et elle cherchait à tirer un avantage de ce drame. Décidément, elle avait le Daesh d'Aemar dans le sang, et tout le mauvais esprit des Damodred, semblait-il. Elle envisagea de demander une punition à Méréane, mais la maîtresse des novices risquait de lui infliger un châtiment qui la contraindrait à rester plus longtemps à Tarvalon. Bien entendu, ce raisonnement calculateur accentuait encore la culpabilité de Moiraine. En conséquence, elle décida de s'infliger toute seule une brimade. Parmi ses robes, une seule se rapprochait du blanc requis pour un deuil. Le modèle d'un bleu si clair qu'il n'en était presque plus bleu du tout. Pour les obsèques de Tamra, Moiraine choisit cette tenue. N'en faisant qu'à sa tête, Tamoré avait orné de broderies le devant, le dos et les manches de la robe. A priori, le fin liseré bleu semblait des plus innocents, jusqu'à ce qu'on ait enfilé le vêtement. À partir de cet instant, l'effet ressemblait furieusement à de la pure provocation, comme la tenue qu'arborait la couturière. Non, pas ressemblait, mais était de la pure provocation. Quand elle se regarda dans son miroir en pied, Moiraine faillit éclater en sanglots. La retrouvant devant leurs appartements dans le couloir, Siouan ne put dissimuler sa surprise.
« Tu es sûr de vouloir porter ça ?»
La fille de pêcheur semblait avoir du mal à en croire ses yeux. Pour sa part, elle arborait des rubans blancs dans les cheveux et un brassard de la même couleur à chaque bras. Toutes les sœurs avaient opté pour cette solution. À l'exception des sœurs blanches, pour des raisons évidentes et indépendantes de leur volonté, les Aes Sedai ne portaient jamais de tenue de deuil intégrale.
« Parfois une punition s'impose, » répondit Moiraine, délibérément énigmatique.
Siouan n'insista pas. Certaines questions étaient convenables et d'autres pas. C'était une affaire de respect des coutumes et de politesse du cœur quand on était amis. Portant toutes leurs châles, les sœurs se réunirent dans une petite clairière, au cœur du parc boisé qui faisait partie du complexe de la tour. Enveloppé d'un simple suaire bleu, le corps de Tamra reposait sur un catafalque. Alors que l'air était des plus frisqués, Moiraine en avait conscience, même si elle n'éprouvait plus le besoin de frissonner, les grands chênes qui entouraient la clairière, encore dénudés comme en plein hiver, semblaient veiller sur la dépouille mortelle de la dirigeante défunte. La tenue de Moiraine lui valut une kyrielle de regards des approbateurs. Rien qui pût la surprendre, puisque la réaction des sœurs faisait partie de sa punition. La mortification de l'esprit n'était-elle pas le châtiment le plus difficile à supporter? Assez curieusement, les sœurs blanches portaient des rubans noirs satinés. Mais il devait s'agir d'une coutume bien établie de leur aja, car les autres sœurs n'en prirent aucunement ombrage. Donc, ce devait être habituel. Chaque sœur avait le droit de réciter une prière en l'honneur de la morte, ou de prononcer quelques phrases pour célébrer sa mémoire. Presque toutes le firent. Mais chez les sœurs rouges, seules les représentantes parlèrent. À peine quelques mots, nota Moiraine. Mais là encore, il s'agissait peut-être d'une coutume. L'héritière de la maison d'Amodred se força à avancer, pour se camper devant le catafalque, son châle disposé de façon à ne rien cacher de la fameuse robe bleu clair. Elle allait être la cible de tous les regards, exactement le moment pénible qu'elle recherchait.
« Puisse la lumière briller à jamais sur l'âme de Tamra, car elle le mérite, et que le Créateur veuille bien la garder dans sa paume, jusqu'à l'heure de sa glorieuse résurrection. Je ne saurais citer une femme que j'admire plus que Tamra. Je continuerai à la vénérer et à l'honorer, même par-delà la mort. »
Des larmes montèrent aux yeux de Moiraine, sans rapport avec l'humiliation qui lui déchirait les entrailles. Sans avoir eu vraiment l'occasion de connaître Tamra, car les novices et les acceptés ne fréquentaient pas les sœurs, et encore moins la chère d'Amirline, Moiraine l'appréciait, et elle lui manquait déjà. Selon les dernières volontés de la défunte, son corps fut consumé par des flux de feu, et ses cendres furent dispersées autour de la tour blanche par les sœurs de l'âge dont elle était issue, et vers lequel la mort la ramenait. Moiraine ne fut pas la seule à pleurer durant cette cérémonie. La sérénité des Aes Sedai ne les protégeait pas de tout, loin de là. Moiraine porta sa robe de la honte toute la journée. Le soir venu, elle la brûla, car elle n'aurait jamais pu reposer les yeux dessus sans repenser à ce jour funeste. Jusqu'à l'avènement d'une nouvelle chaire d'Amirline, le pouvoir et ses responsabilités revenaient au hall de la tour. Mais un ensemble très contraignant de lois et de règles empêchait que cela dure très longtemps. De fait, dès la soirée qui suivit les funérailles de Tamra, Sierine Vayou, une sœur grise, fut arrachée à son âge d'origine pour devenir la dirigeante suprême de l'ordre. Le jour où elle recevait l'étole et le sceptre, la nouvelle chaire d'Amirline était censée distribuer des indulgences et lever un certain nombre de punitions. Sierine n'en fit rien. De plus, en 3 jours tout au plus, elle fit renvoyer tous les fonctionnaires mâles de la tour, sans même daigner leur remettre une lettre de référence. Tous furent accusés d'avoir compté fleurettes aux novices et aux acceptés, ou de leur avoir jeté des regards furtifs et inconvenants. Ces accusations, bien pratiques parce qu'elles pouvaient vouloir dire tout et n'importe quoi, visèrent des scribes assez vieux pour être arrière-grand-père, tout autant que de jeunes secrétaires, réputés pour ne pas s'intéresser le moins du monde aux femmes. Dans la tour, personne ne s'autorisa de commentaires sur cette purge. Par peur, évidemment, que d'éventuelles critiques arrivent aux oreilles de Sierine. 3 sœurs furent bannies de Tarvalon pour toute une année. À 2 occasions, Moiraine dut aller dans la cour des traîtres, avec toutes les autres sœurs, pour assister à la punition d'une Aes Sedai. Le haut de sa robe déchirée, la suppliciée était attachée au triangle, puis fouettée jusqu'à ce qu'elle hurle de douleur. La protection qui isolait la cour du reste du complexe, un tissage en forme de dôme gris, donnait de l'écho aux cris qui transpercèrent les tympans de la pauvre héritière de la maison d'Amodred, dont le cœur battait la chamade. Chaque fois, et pour la première fois depuis le jour de l'épreuve finale, Moiraine perdit sa concentration et trembla de froid et de frayeur. Ses cris, comprit-elle alors, risquaient de retentir à ses oreilles durant des semaines, voire des mois. Sierine assista aux 2 supplices avec un calme souverain. Une nouvelle chaire d'Amirline nommait nécessairement sa gardienne des chroniques. Si l'envie lui en prenait, elle pouvait également choisir une nouvelle maîtresse des novices. Sierine fit les 2. Très bizarrement, la remplaçante de Méréane, Amira, une force de la nature dont les multiples nattes oscillaient en rythme tandis qu'elle jouait de la badine, venait de l'âge à rouge, comme Douara, la nouvelle gardienne des chroniques. Aucune loi ni coutume n'exigeait que les 2 postes soient confiés à des sœurs issues du même âge que la chaire d'Amirline, mais c'était un usage bien établi. Quand elle entendit certains murmures concernant Cyrin, Moiraine fut soudain beaucoup moins étonnée. À l'époque où elle avait reçu le châle, tout le monde s'était étonné que Cyrin ait choisi l'âge à gris au lieu du rouge. Dans ces conditions, on pouvait parier qu'aucune enquêtrice de Tamra ne viendrait parler du garçon à la nouvelle dirigeante. Le lendemain du second supplice, Moiraine prit son courage à deux mains et entra dans l'antichambre du bureau de Cyrin. Assise à sa table de travail, une étole rouge large comme la main sur les épaules, Douhara portait une robe noire tellement rayée de rouge qu'elle aurait tout aussi bien pu être entièrement écarlate. Bien qu'elle fût beaucoup plus grande que Moiraine, Douhara était une très jolie femme, comme beaucoup de Domani. Mais son regard dur et sa moue méprisante gâchaient un peu l'effet. Même avant qu'elle arbore l'étole, se souvint Moiraine, elle aurait dû danser la gigue au moindre claquement de doigts de cet Aes Sedai. Alors qu'elle allait parler, la porte du bureau s'ouvrit à la volée. Et Cyrin jaillit de la pièce au pas de course, un document dans la main.
« Douhara, j'ai besoin de toi pour... Que veux-tu, toi ?»
La deuxième phrase, aboyée plus que dite, s'adressait à Moiraine, qui s'inclina bien bas, comme à l'époque de son noviciat, puis embrassa la bague au serpent, à la main droite de la chair d'Amirline, le seul bijou que portait Cyrin. Son étole rayée aux sept couleurs des ajats devait être à moitié moins large que celle de Douhara, et ses cheveux bruns grisonnants étaient simplement coupés au carré. Plutôt en chair, elle aurait dû être jolie, mais sa morosité permanente empêchait les gens de s'en apercevoir. Question taille, Moiraine pouvait presque la regarder dans les yeux, sans se dresser sur la pointe des pieds. La bouche sèche, la jeune femme dut lutter pour ne pas trembler sous la vague de froid qui déferla sur elle, et qui n'avait rien à voir avec les rigueurs de l'hiver. Mais les exercices de contrôle nerveux, pourtant prévus pour des situations de ce genre, n'eurent pas l'effet escompté. Grâce aux murmures qui couraient dans toute la tour, elle avait appris bien des choses sur la nouvelle chair d'Amirline. Un point en particulier lui revint en mémoire, tant il était pertinent. Aux yeux de Cyrin, ce qu'elle tenait pour la loi était la loi, et il n'y avait là-dedans aucune place pour l'indulgence et la compassion, comme dans son âme à coup sûr.
« Mère, je demande à être relevée de toute responsabilité relative à la prime et à sa distribution. Les fonctionnaires s'en occupent avec toute la diligence dont ils sont capables. Mais venir faire leur rapport à une Aes Sedai chaque matin leur fait gaspiller un temps précieux qu'ils pourraient consacrer au travail. »
Cyrin fit la grimace, comme si elle venait de mordre dans un kaki amer.
« Si ça ne risquait pas de nuire à la réputation de la tour, dit-elle, j'annulerai toute cette histoire, de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, c'est d'accord. Les fonctionnaires pourront faire signer leurs documents par quelqu'un d'autre. Une sœur marron, par exemple. Elles adorent les âneries administratives. »
Alors que le cœur de Moiraine se gonflait d'allégresse, la dirigeante ajouta.
« Mais ne quitte pas Tarvalon, surtout. Comme tu le sais, nous aurons très bientôt besoin de toi. » « Qu'il en soit ainsi, mère, »
répondit Moiraine, alors que son cœur se vidait comme une misérable baudruche. Se fendant d'une nouvelle courbette, elle embrassa encore la bague au serpent. Avec une femme comme Cyrin, on ne se montrait jamais trop obséquieuse. Quand Moiraine entra dans sa suite, Siouan l'y attendait. Se penchant en avant, elle interrogea son amie du regard.
« Je ne m'occupe plus de la prime, »
annonça Moiraine.
« Mais j'ai ordre de ne pas quitter Tarvalon. »
Elle produisit une excellente imitation de la voix de Cyrin, n'était un trop-plein d'amertume qui venait d'elle et pas de son modèle.
« Comme tu le sais, nous aurons très bientôt besoin de toi. » « Par les entrailles d'un poisson géant !»
marmonna Siouan. Elle se radossa à son siège.
« Que vas-tu faire ?»« Une promenade à cheval. Une très longue promenade, je veux dire. »
Siouan sursauta de surprise.
« Que la lumière te protège !»
dit-elle quand elle se fut reprise. Différer son départ n'ayant aucun sens, Moiraine se changea. Pour que ça aille plus vite, Siouan l'aida à enfiler une robe d'équitation bleu foncé et très sobrement brodée. À peine quelques feuilles argentées autour du cou et des manches. Toutes ces tenues sombres étaient brodées à l'origine, mais la jeune femme s'était souvenue qu'elle ne cousait pas si mal que ça, à l'époque de son adolescence oisive. Découdre n'était pas bien compliqué, quand on avait la main précise. Laissant son châle proprement plié dans la grande armoire, elle prit une cape doublée de fourrure, glissa sa brosse et son peigne dans une des poches intérieures et fourra son nécessaire de couture dans une autre. Après avoir récupéré ses gants d'équitation, elle serra Siouan dans ses bras et sortit sans se retourner. De longs adieux lui auraient arraché des larmes et elle ne pouvait pas se permettre d'avoir les yeux rouges. Dans le couloir, des sœurs la regardèrent avec un rien d'étonnement, mais elles furent promptes à s'intéresser de nouveau à leurs affaires. Keiren et Shiryam, cependant, firent remarquer que le temps était un peu frisqué pour une promenade à cheval.
ses yeux semblant lire en Moiraine comme dans un livre ouvert, seule et hadite, intercepta la jeune femme et se montra plus loquace.
« Des fermes et des villages dévastés ne te donneront pas l'impression de prendre l'air, »
dit-elle.
« Cyrine m'a ordonné de ne pas quitter Tarvalon. »
La pure vérité, non ?
« Si je traversais un pont, même pour une heure ou deux, elle penserait que je me fiche de son autorité. »
Et Hadith eut une moue amère, qui s'effaça très vite, laissant Moiraine se demander si elle ne l'avait pas imaginé. Mais la première électrice, réputée pour sa vivacité d'esprit, avait dû tirer de sa réponse les conclusions qui s'imposaient. Cyrine était au courant du grand plan, et ça la contrariait au plus haut point.
« La chair d'Amirline peut être terrible avec quiconque ose la défier, si peu que ce soit. »
Moiraine dut se retenir de sourire, par la lumière. Et Hadith venait de lui donner une occasion de dire les choses franchement, enfin, presque franchement. Une parfaite réponse d'Aes Sedai.
Bien entendu, je n'ai aucune intention de traverser un pont. Tati Dufouet ne me dit rien. »
Dans les écuries ouest, Moiraine demanda qu'on scelle flèche, mais sans mettre en place les sacoches. Pour une promenade équestre en ville, qui en aurait eu besoin? Si Hadith n'avait pas tout gobé et envoyait quelqu'un l'espionner, le rapport la rassurerait. Si tout se passait bien, personne n'aurait l'ombre d'un soupçon avant la tombée de la nuit. Moiraine s'arrêta d'abord chez maîtresse Dormeil. Selon ses instructions, la banquière avait préparé un assortiment de lettres de change au montant différent, et elle tenait à la disposition de sa cliente 4 bourses de cuir qui contenaient chacune 200 couronnes d'or et d'argent. Les pièces suffiraient pendant un temps à subvenir aux besoins de la fugitive. Les lettres de change serviraient quand cette manne aurait été dépensée, ou dans les cas d'urgence. Mais là où elle en utiliserait, Moiraine aurait intérêt à ne pas s'attarder. Si discrets que soient les banquiers, les espions et les indicateurs de la tour n'avaient pas les yeux dans leurs poches, et la chère d'Amirline finissait presque toujours par obtenir les informations qu'elle désirait. Maîtresse Dormeil ne posa aucune question, comme de juste. Apprenant que Moiraine était seule, elle lui proposa que 4 de ses garçons de bureau lui tiennent lieu d'escorte. L'Aes Sedai accepta. Si elle ne redoutait pas les bandits, d'ailleurs fort rares à Tarvalon et faciles à neutraliser, elle préférait qu'ils se tiennent loin d'elle parce qu'elle avait des gardes du corps. Les chasser en utilisant le pouvoir était un jeu d'enfant, mais ça risquait d'attirer l'attention de certains fâcheux. En revanche, il était banal qu'une femme riche chevauche en compagnie de protecteurs, même à l'intérieur de Tarvalon. Lorsque Moiraine sortit de la banque, les hommes qui l'attendaient à côté de Flèche auraient effectivement pu passer pour des garçons de bureau. Mais des muscles impressionnants saillaient sous leurs vestes grises des plus ordinaires, et ils semblaient savoir parfaitement bien se servir de l'épée qui leur battait le flanc. Sans nul doute, c'étaient des employés comme eux qui s'étaient assurés de la personne de Maître Gortanès, le convainquant sans peine que toute résistance serait mal avisée. Toutes les banques engageaient des gardes, même si elles ne les appelaient jamais ainsi. Passant ensuite dans la boutique de Tamoré, Moiraine donna quelques pièces à 2 de ses gardes du corps, les chargeant d'aller acheter une malle de voyage et engager 2 porteurs. Puis elle se changea, enfilant une des robes d'équitation qui pourrait la faire passer pour une noble mineure du Caerienne. 3 modèles sur 5 étaient brodés, mais sans excès, ce qui l'incita à ne pas se plaindre. De toute façon, il était trop tard pour faire découdre tous les ornements. Comme maîtresse Dormeil, Tamoré ne posa aucune question. S'il était de bon ton de flagorner sa couturière, elle restait après tout une couturière. De plus, ces femmes avaient un instinct sûr, en matière de discrétion, une qualité requise pour faire une longue carrière dans leur profession. Avant de partir, Moiraine glissa sa bague au serpent dans une de ses poches de ceinture. Sans le bijou, sa main lui donna l'impression d'être nue, et son index semblait malheureux en l'absence de l'anneau d'or. Mais à Tarvalon, trop de gens savaient ce que représentait la bague. Pour le moment, il ne fallait surtout pas l'exhiber. Avec sa petite escorte, Moiraine se dirigea vers le nord, marquant des pauses pour ajouter dans le coffre, déjà lourd sur les épaules des porteurs, une multitude d'objets indispensables qu'elle n'aurait pas pu emporter de chez elle sans éveiller les soupçons. La petite colonne arriva assez vite au port du nord. Prolongeant les murs de la cité, 2 grandes jetées en arc de cercle délimitaient le port lui-même, des quais protégés par des toits de bois, disposés tout au long, permettant aux bateaux de décharger ou de charger de la marchandise. Une brève conversation avec la capitaine des quais, une solide femme aux cheveux gris très moyennement aimable, orienta Moiraine vers l'endroit où mouillait un 2-mâts appelé l'aile bleue. Ce n'était pas le plus gros bâtiment disponible, loin de là, mais il devait appareiller dans un délai d'1 heure.
Flèche fut promptement transféré à bord et ne parut pas traumatisé par son séjour dans les airs, un harnais autour du ventre. Après avoir payé les porteurs, Moiraine renvoya ses gardes du corps, non sans leur avoir remis une couronne d'argent à chacun. Dans la petite cabine, sur le pont arrière, la malle de la jeune femme prenait vraiment beaucoup de place, mais elle s'y ferait. Consciente qu'elle allait devoir passer de très longues heures dans cet endroit exigu, Moiraine resta sur le pont, tenant compagnie à Flèche, pendant que l'aile bleue, propulsée par d'énormes rames qui lui donnaient des allures d'insecte géant, traversait lentement le port, en route pour la liberté. Si elle avait préféré sa cabine au grand air, la jeune femme n'aurait pas vu la capitaine du port, un bras tendu vers le deux-mâts, en grande conversation avec un homme qui serrait sur son torse les pans de sa cape sombre, tout en regardant lui aussi le bateau. Moiraine s'ouvrit au Saïdar, et la scène devint soudain beaucoup plus claire devant ses yeux. Le grossissement n'était pas aussi bon qu'avec une longue vue de qualité, mais il lui permit de distinguer les traits de l'inconnu. La description de maîtresse d'Ormeil était excellente. Sans être un éphèbe, l'homme était plutôt agréable à regarder, malgré la cicatrice qui partait du coin de son œil gauche. Pour un compatriote à elle, dû admettre Moiraine, il était effectivement très grand, plus de 6 pieds à l'évidence. Mais comment l'avait-il repéré, et pourquoi la cherchait-il? Même en se forçant, impossible de trouver une réponse agréable à ces deux questions, et surtout à la seconde. Si quelqu'un désirait saboter les plans du hall de la tour, par exemple pour qu'une autre lignée que les dames Audred monte sur le trône du soleil, le moyen le plus simple restait d'assassiner l'héritière sélectionnée par la tour blanche. Après avoir gravé dans sa mémoire les traits de l'individu, Moiraine se coupa du pouvoir. Une nouvelle menace à prendre en considération. L'homme savait sur quel bateau elle voyageait, et il connaissait sans doute toutes les escales prévues entre Tarvalon et les terres frontalières. Très éloignée du Caerien, la destination finale de l'aile bleue semblait un bon début pour une fugitive.
« Capitaine Carnet, votre bateau est-il rapide ?»
L'imposant officier de marine, si typique avec son visage tanné par le soleil et sa moustache passée à la brillantine, cessa de beugler des ordres et regarda sa passagère, avec un semblant de sourire respectueux. Si hypocrite que soit sa courtoisie, il avait été ravi de facturer au prix fort le passage de la noble dame, de son cheval et de ses bagages.
« Le plus rapide de tous, madame »
dit-il, avant de s'en retourner à ses occupations. Moiraine lui avait déjà versé la moitié du paiement. Pour obtenir l'autre, il lui suffirait de remplir sa partie du contrat et de rester raisonnablement poli. Tout capitaine aurait vanté les mérites de son navire. Mais quand le vent s'engouffra dans ses voiles triangulaires, le deux-mâts sembla s'envoler, se montant tout à fait à la hauteur de son nom. Lorsque l'aile bleue eut enfin quitté le port, Moiraine bascula pour de bon dans l'insubordination vis-à-vis de la chair d'Amerline. Sierrine aurait sans doute estimé qu'elle y avait sombré bien plus tôt, mais pour la jeune femme, intention n'était pas équivalent à action. Eh bien, désormais, il n'y avait plus de différence. Dès 7 minutes, la menace d'une punition planait sur la tête de Moiraine. Une combinaison de travail, de privation, de mortification de la chair et de mortification de l'esprit. Pour ne rien arranger, un tueur la suivait à la trace. Terrorisé par le courroux de Sierrine et les mauvaises intentions de Maître Cortanès, Moiraine aura dû trembler comme une feuille. Pourtant, en s'éloignant de Tarvalon, elle éprouvait un exaltant sentiment de liberté. Désormais, plus personne ne la forcerait à s'asseoir sur le trône du soleil. Et même si le hall finissait par la retrouver, la place serait déjà prise à ce moment-là. En attendant, elle allait chercher le garçon. Une mission digne de la plus grande aventure vécue jusque-là par une Aes Sedai.